Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités, Raquel Camarinha, bonjour.
Bonjour.
Johan Hérault, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous reçois à l'occasion notamment d'un concert qui sera donné le 23 juin prochain dans ce lieu mythique qu'est la Grange de Mêlée, ce lieu découvert par Sviatoslav Richter. Johan Hérault, Sviatoslav Richter, pour vous, c'est une icône ou c'est un pianiste que vous adorez mais qui n'a pas une place particulière?
Ah non, c'est, bah, je pense que comme l'essentiel des pianistes, c'est une icône pour moi. C'est un des premiers CD qui vraiment m'a marqué. C'est le concerto numéro 2 de Rachmaninov par Richter. C'est vraiment un disque que j'ai passé en boucle et qui m'a vraiment, qui a été un des jalons très importants de ma construction de musicien et de pianiste.
Raquel Camarinha, vous êtes soprano et vous chanterez aux côtés de Stefan Genz et Fernando Guimarães, et puis Adèle Charvet, mezzo-soprano. Donc c'est un mélange, une sorte de medley Schumann-Brahms. En même temps, c'est des compositeurs bien sûr contemporains, bien qu'avec un certain décalage, mais c'est quand même une littérature très très différente. Là il y a des quatuors, des duos, des œuvres solistes. Pour vous, Schumann et Brahms, il y a un lien autre que affectif entre les deux?
Je pense que musicalement, il y a des liens. Enfin, on les retrouve tous les deux dans la musique l'un de l'autre presque, puisqu'ils sont tellement influencés sur tous les plans de leur vie. Et là, je trouve assez intéressant ce programme où justement on mêle les différentes formations, où on va retrouver l'aspect presque chorale dans l'équateur de Brahms parfois, et puis des dialogues assez comiques dans les duos. Donc je pense que c'est un programme très, très léger, un programme très de salon qui va être très vivant.
Est-ce qu'en même temps, alors, au risque de m'égarer, pour vous, parce qu'en tant que chanteuse, quand vous chantez de la mélodie, c'est quand même un art d'une folle exigence. Vous vous retrouvez seul avec un pianiste, donc en duo, mais pas le même instrument. Là, vous vous retrouvez quand même avec des chanteurs. Il n'y a pas une sorte de soutien mutuel comme on peut avoir à l'opéra?
Ah si, complètement. Je trouve que de chanter avec d'autres voix, ça nous porte. Oui, on se sent bien entouré. C'est assez particulier.
Vous, Johan Hérault, ce sont des œuvres que vous avez beaucoup travaillées?
Oui, bien sûr. Bah là, en plus dans le programme qu'on a concocté, on a choisi vraiment des leads majeurs de l'un et de l'autre. Les quatuors un peu moins, parce qu'il faut un programmateur qui a envie de réunir quatre chanteurs. Les occasions se font plus rares. Mais oui, il y a quand même beaucoup de pièces qui font partie de notre chemin depuis longtemps. Je pense, je sais pas, avec Raquel, on va faire Liebestreu, on va faire avec Adèle Immerleise, qui sont vraiment des leads de Brahms très très importants.
Mais alors pianistiquement, ce sont des œuvres, bon, comme toutes les mélodies, hein, ou les leaders, très très exigeantes. La littérature de Schumann et de Brahms pour le lead, au niveau pianistique, c'est extrêmement difficile.
Ah ben on est vraiment dans leur écriture pianistique. On sent chez Brahms, comme dans sa littérature pianistique, toujours une écriture assez chargée, volontiers des octaves, des accords assez denses. Chez Schumann, on a cette fantaisie qu'il caractérise également dans les pièces piano qu'on retrouve dans ses leaders. Donc oui, non, vraiment, ces deux compositeurs, de toute façon, pour qui le genre du lead a été important d'un bout à l'autre de leur vie et qui reflète tout ce qu'ils ont pu faire par ailleurs et en particulier au niveau du piano.
Raquel Camarinha, vous vous retrouvez donc sur cette scène de la Grange de Mêlée avec trois autres chanteurs avec lesquels vous avez déjà travaillé, Fernando Guimarães, Stefan Genz et Adèle Charvet. Mais alors, sans citer de noms, parce que là vous entendez bien avec eux et puis vos voix vont ensemble, mais vous vous êtes retrouvés dans des situations où, sans encore une fois citer de noms, où vous vous retrouvez avec des chanteurs comme ça où il n'y a pas les affinités, où le timbre, il y a quelque chose qui ne colle pas.
Ah oui, c'est sûr que ça peut arriver, parfois même dans les productions d'opéra où on ne connaît pas nos collègues d'avance et c'est vrai que parfois il y a des timbres, on ne sait pas pourquoi, qui peuvent être séparément sonner très très bien, et puis quand on les met ensemble, je ne sais pas, il y a quelque chose dans les harmonies qui ne colle pas. Parfois aussi une différence de projection vocale. Il y a des équilibres parfois qui se retrouvent pas. Mais et du coup là, je pense qu'on a eu beaucoup de chance pour ce concert de pouvoir constituer cette équipe avec des voix que nous connaissons, Johan et moi, très bien et que nous pensons que vont bien se marier et que le résultat musical et vocal va être très bien.
Sensibilité esthétique aussi commune, ce sont que des chanteurs qui ont un goût prononcé pour ce répertoire-là, que ce soit Adèle qui fait beaucoup de chants piano, Stéphane qui est évidemment un des interprètes majeurs du lead aujourd'hui, Fernando qui fait également beaucoup beaucoup de choses, avec qui toi tu as beaucoup chanté également au répertoire de chambre. Donc c'est sûr qu'il y a ce mariage des voix mais aussi d'une certaine sensibilité, oui, artistique.
Johan Hérault, alors vous travaillez énormément avec des chanteurs, je ne parle même pas seulement de ce concert et puis de celui qui sera donné le lendemain aux côtés de Stéphane Gens, ce cycle du voyage d'hiver de Schubert qu'on va évoquer. C'est quoi, c'est le répertoire ou c'est l'amour de la voix qui vous a amené à travailler autant avec les chanteurs?
En fait, je dirais que c'est l'amour du texte. Moi, s'il y a dû avoir une révélation dans mon parcours, c'est vraiment cette rencontre avec le texte. C'est les premiers chanteurs que j'ai accompagnés, c'est... l'imaginaire qui tout d'un coup pour moi explosait vraiment à la rencontre du mot, de tout ce que ça peut évoquer, de tout ce que ça peut inspirer musicalement. C'était une certaine libération aussi technique, artistique, donc voilà, moi c'est vraiment la rencontre du texte plus finalement que de la voix ou d'un certain répertoire.
Et vous, Raquel Camarena, puisque vous avez remporté en 2011 ce fameux prix Nadia Lili Boulanger, qui est quand même une consécration dans le domaine de la mélodie, c'était quoi, un amour aussi qui vous prédisposait à chanter la mélodie?
Oui, en fait, je suis venue au chant par le théâtre. J'avais commencé par faire du théâtre et je faisais de la musique depuis toute petite. Et donc le chant, pour moi, était l'opportunité de conjuguer les deux. Et j'étais... comme Johan, j'étais amoureuse de la littérature et dans l'opéra, oui, on a la chance de pouvoir jouer un personnage, mais quand on fait de la mélodie ou du lead, on a un texte tellement beau, tellement puissant, avec des images souvent très délicates à faire passer. On peut vraiment raconter une histoire de façon très intime au public et c'est ça qui me fascine dans ce genre.
Mais en même temps, à l'opéra, vous avez 3 ou 4 heures pour développer un personnage ou vous retrouver avec d'autres. À la mélodie, vous avez 3 ou 4 minutes pour développer justement un texte, imposer un univers. C'est un travail d'une incroyable exigence.
Oui, c'est très intense et oui, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus fin, je trouve.
Je pense aussi la richesse, c'est que à l'opéra, on a une mise en scène, on a des partenaires, quoique samedi, Raquel en aura également, mais... en chant piano, voilà, dans le répertoire du lead et de la mélodie, c'est juste par le texte qu'on doit susciter dans l'imaginaire des gens toute une histoire,
tout un univers. Un scénario. Oui.
En même temps, vous, en tant que pianiste, ça vous permet aussi d'aborder des compositeurs que vous pourriez peut-être pas jouer seul au piano. Je pense à Mahler ou d'autres compositeurs pour lesquels vous pouvez travailler avec des chanteurs. Bon, Mahler, sauf erreur, il n'a rien composé pour le piano seul.
Oui, Mahler, Wagner, je pense à beaucoup de... même de
Richard Strauss.
Strauss, beaucoup de compositeurs français également. On parlait de Maurice Delage tout à l'heure. Francis Poulenc qui évidemment a quand même composé pour le piano, mais je pense que c'est pas lui faire offense que de dire que ce qu'il a composé pour la voix est quand même autrement conséquent que sa production pianistique. Donc oui, non, c'est sûr, c'est une rencontre d'un répertoire que j'aurais pas pu malheureusement travailler en tant que pianiste seul.
Alors, je me tourne vers vous, Raquel Camarena, parce que les auditeurs le perçoivent pas, mais vous êtes portugaise. Donc ça, quand on vous entend parler français, il faut le savoir, que vous n'êtes pas née en France. Et alors, quand vous chantez de la mélodie française, pour vous, il y a un effort par rapport à la langue particulier?
Oui, c'est une bonne question. Maintenant, je dirais que moins, parce que ça fait 10 ans que je suis en France et que je vis en France et que mon quotidien se passe en français. Et comme c'est un genre qui me plaît particulièrement et qui me touche particulièrement, j'ai beaucoup travaillé justement au niveau de la prononciation, du texte.
Excusez-moi de vous interrompre, vous avez travaillé avec qui?
J'ai travaillé... J'ai travaillé avec Chantal Mathias dans un premier temps à mon arrivée au conservatoire. J'ai pu travailler avec François Leroux qui m'a aussi apporté cet amour du texte, de la parole, de bien la transmettre. Et donc tout ça fait que je me sens de plus en plus à l'aise dans ce répertoire et dans cette langue.
Vous voulez ajouter quelque chose sur le texte ?
Pas spécialement. Si, c'est vrai que Raquel a ce talent incroyable pour les langues. On entend dans sa voix parler qu'elle n'a pas ou presque pas d'accent. Et c'est vrai que ça, c'est applicable aux autres langues aussi. Moi, je suis toujours ébahi par son allemand, son anglais. On a fait récemment l'intégrale des mélodies de Chopin en polonais. On a également chanté en finnois. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un talent important pour un chanteur, mais qui est assez incroyable pour être noté, je trouve.
Vous parlez de l'anglais. On a l'impression que pour les chanteurs non anglophones, l'anglais est une des langues les plus difficiles à chanter.
Ah, ça, je ne saurais pas vous dire, parce que moi, je parle anglais depuis mon enfance, depuis mes 7 ans. Donc l'anglais, c'est ma seconde langue et il m'a suivi tout le long de mon adolescence. Donc c'est une langue dans laquelle je suis vraiment très à l'aise pour chanter. Alors, je ne sais pas, je sais pas pour mes collègues.
Alors, là, le 23 juin prochain à 18h à la Grange de Mêlée, donc c'est ce répertoire germanique, Schumann, Brahms, vous alternez les deux compositeurs. Les leaders de Brahms ou Schumann, il y a souvent une certaine gravité. Là, c'est un répertoire beaucoup plus léger, il y a des thèmes populaires. Et c'est un choix d'avoir fait cette part ensoleillée de ces compositeurs qu'on connaît plus brumeux.
En fait, il y a un peu des deux, je pense, dans le programme. Il y a quand même pas mal aussi de on a beaucoup le thème de la nuit, quand même. On commence et on finit par ça.
On a beaucoup le thème aussi des chagrins d'amour avec Liebestreu, von ewiger Liebe.
Mais c'est intéressant que vous nous parliez de ça, parce que quand on a commencé à réfléchir à ce programme avec Raquel, on s'est dit qu'on ne voulait pas tomber dans l'écueil de faire qu'un programme un peu plombé, avec tout ce qu'on adore, évidemment, chez ces deux compositeurs-là. Et on a aussi cherché des mélodies plus légères. Donc, en fait, le programme, c'est vrai, est balancé entre ces thématiques nocturnes et plus un peu pesantes, et puis des leads et des ensembles très badins d'amour un peu très léger, où on a plusieurs sérénades, où la jeune fille veut pas ouvrir au jeune garçon qui est dehors, et puis finalement on sait bien qu'elle va lui ouvrir, et puis voilà. Donc il y a ces deux aspects là qui nous semblaient donner l'équilibre au programme et donner aussi cet esprit salon qu'on voulait, où on peut passer d'un thème à l'autre, d'une légèreté à une plus grande gravité, voilà.
Vous, Johann Hérault, le lendemain, changement total d'univers, puisque vous interprétez Le Voyage d'hiver aux côtés de Stefan Genz. Alors ça, c'est le chef-d'œuvre écrasant, un des trois cycles schubertiens. Enfin, il n'y a que des leaders essentiels, mais ça, c'est vraiment un des cycles essentiels de toute la musique.
À chaque fois que je suis programmé dans Le Voyage d'hiver, je le prends vraiment comme une grande chance. C'est une œuvre extraordinaire et c'est vrai que vraiment je me dis à chaque fois que je suis sur scène, avant d'entrer et puis en sortant, que j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir à nouveau faire ce cycle en public, en plus dans des conditions idéales comme c'est le cas à la Grange de Mêlée, avec un magnifique piano, avec un chanteur très inspirant, avec un public attentif. C'est une œuvre qui est vraiment pour moi au-dessus de tout, quoi. C'est même assez choquant. Moi, quand je termine cette œuvre, il me faut souvent un peu de temps pour m'en remettre. On embarque vraiment pour quelque chose pour ce voyage pendant une heure dix, et c'est vraiment formidable. Alors après, avec ce programme, finalement, il y a quand même un lien, parce que même si ça n'a pas été pensé comme tel, mais Schubert, c'est quand même le père du lead. Autant Brahms, c'est vrai qu'il y a une vraie filiation affective avec Schumann, mais je pense qu'artistiquement il y a aussi une filiation très très forte avec Schubert, et alors que Schumann, là pour le coup, est vraiment directement après Schubert, donc il y a évidemment un lien très intéressant entre les trois.
C'est une œuvre inépuisable. Là, vous vous retrouvez avec Stefan Genz, j'imagine que vous avez travaillé avec d'autres chanteurs, vous l'avez interprété avec d'autres chanteurs, à chaque fois il y a des échanges qui vous font avancer dans cette...
C'est absolument merveilleux, parce que souvent le matériau est assez simple, mais c'est vrai que c'est inépuisable. C'est source d'inspiration folle et d'échange avec celui qu'on accompagne. Donc là, moi, ça va être la première fois que je le fais avec Stéphane, qui lui a déjà beaucoup, beaucoup voyagé avec cette œuvre. Donc c'est très intéressant pour moi de pouvoir me confronter à quelqu'un qui a forcément un recul que moi je n'ai pas forcément. Moi j'espère lui apporter peut-être une fraîcheur et modestement un regard différent de ce qu'il a pu voir avant. Et voilà.
Je me retourne vers vous, Raquel Camarena, puisque vous venez d'enregistrer l'un et l'autre ensemble, donc un disque pour le label Naïf consacré à de la mélodie française avec Debussy, Ravel, Poulenc, Delage. Ça a dû être compliqué de construire un tel programme.
Finalement, c'était assez évident pour nous parce que c'était notre premier disque ensemble. On voulait vraiment que ça nous représente que ça nous représente musicalement et stylistiquement. Et donc Debussy, c'est venu assez rapidement parce que c'est par Debussy que nous nous sommes rencontrés. Poulenc aussi, c'est un compositeur qu'on a beaucoup joué et on a fait ensemble La Voix Humaine. C'était un projet qui nous a vraiment cimenté en tant que duo. Et voilà, donc Ravel, pareil par la suite, chez Razad, c'était une œuvre qu'on voulait justement défendre dans sa version chant piano. Et puis finalement, Delage, qui est pour nous une perle du répertoire qui n'est pas si souvent donnée et qu'on voulait aussi faire découvrir. Donc finalement, la construction du programme était assez évidente.
C'est vrai que du coup, quand Naïf nous a proposé ce disque, voilà, comme disait Raquel, c'est le premier pour nous en duo. On s'est vraiment demandé ce qu'on voulait enregistrer, ce qu'on aimait par-dessus tout. Donc c'est vrai que quand l'amour des œuvres est le vecteur principal du choix du programme, finalement c'est assez facile. On s'est dit qu'on ne voulait pas de thématique, de vraiment. Enfin, en tout cas, elle est venue finalement d'elle-même, mais c'est pas elle qui a guidé le choix du programme. C'est vraiment les pièces qu'on avait envie de faire.
Vous parliez de La Voix Humaine, que c'est une œuvre que vous avez beaucoup chantée, vous avez beaucoup travaillé ensemble. C'est une œuvre, on a l'impression qu'il y a une très grande difficulté, pas seulement vocale, mais aussi, aussi un problème d'interprétation, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment une œuvre chantée, parlée.
Oui, c'est une œuvre très exigeante. Et pour moi, ce qui était le plus exigeant, c'était justement de tenir pendant une heure une œuvre qui est très tendue au niveau émotif. Et là, dans la version que nous avons faite, donc on a fait une version mise en scène par Alexis Barrière, où le piano était sur scène et où je m'appuyais justement sur le piano et sur le pianiste, enfin sur Johan, pour l'interprétation. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Parce que La Voix Humaine, je pense qu'on a souvent le risque, quand on le fait avec orchestre, de se retrouver vraiment seul avec son pauvre téléphone. Et là, je sentais une autre présence sur la scène. Je me sentais vraiment bien épaulée. Et ça m'a beaucoup aidée pour l'interprétation de l'œuvre.
Sur votre disque qui paraîtra chez Naïf, fin septembre prochain, donc il y a cette version de chez Razad pour voix et piano, qu'on connaît beaucoup moins, vous le disiez, que la version orchestre. Et alors, c'est une écriture pianistique qui est proche de l'écriture pianistique qu'on connaît de Ravel ou très différente?
Non, enfin, c'est quand même vraiment c'est quand même du Ravel pur jus. Évidemment, il y a plein de passages qui peuvent nous faire penser à d'autres œuvres. Il y a quand même une écriture vraiment ravelienne, mais c'est tout de même très orchestral, avec beaucoup de trémolos chargés, je pense que quand Ravel écrit cette partition, évidemment l'orchestre est déjà là. Et donc non, c'est quand même une œuvre à part, je pense, au niveau de l'écriture.
Vous parliez du texte, et puis là, La Voix Humaine, c'est Cocteau, et puis quand il y aura des textes de Verlaine sur le disque. Mais en même temps, alors, question bête, mais tant pis, c'est des textes quand même tellement forts, des poésies tellement fortes. La musique s'ajoute, ce sont des génies, Debussy, Ravel, d'autres, Poulenc, mais est-ce que parfois, justement, il n'y a pas une telle force dans le poème qu'on a des difficultés à ce que la musique s'ajoute?
Oui, sûrement, et je pense à un exemple qui justement n'est pas un exemple de cette situation. Je pense au poème de Baudelaire sur la musique de Debussy, enfin la musique de Debussy sur les poèmes de Baudelaire qu'on a pu faire, et où on retrouve un Debussy complètement changé quand on compare avec ses œuvres sur Verlaine, parce que la poésie de Baudelaire, elle est tellement intense et tellement elle nous transporte tellement et ça métamorphose complètement la musique de Debussy. Je pense qu'il y a justement des textes qui peuvent pas... il faut qu'il change l'esthétique du compositeur, il faut qu'il fasse naître autre chose.
Mais c'est vrai qu'il y a des textes qui sont aussi... Enfin, des auteurs qui sont plus difficilement... mise en musique, on pense à Baudelaire, c'est quand même un auteur pardon, qui a été très peu mis en musique par rapport à quelqu'un comme Verlaine en France ou même à Victor Hugo. Et alors les raisons, je pense, sont multiples, c'est un peu compliqué comme ça d'y répondre, mais c'est vrai que je pense chez Baudelaire, on a déjà un très grand lyrisme poétique, des vers très chargés. Et un imaginaire vraiment, vraiment, vraiment toujours très dense. Et peut-être qu'il est assez difficile pour des compositeurs de trouver leur place là-dedans, de savoir quoi ajouter à une forme qui finalement est déjà tellement complète. C'est vrai qu'on parlait de Verlaine. Verlaine, je pense, laisse finalement plus de place. Le génie est absolument pas moindre. Mais il y a de la place pour du sous-texte, pour... Oui, c'est ça, pour que la musique puisse apporter quelque chose. Et quant à Baudelaire, c'est vrai que c'est pour ça que ces œuvres les poèmes de Baudelaire de Debussy là, sont tellement particuliers. C'est que, et finalement, qui ont été rejetés à l'époque et assez mal aimés quand ils ont été créés. C'est que Debussy, alors est-ce que c'est aussi le wagnérisme ambiant qui a fait qu'il a envie d'aller voir. De ce côté-là, dans les chromatismes, dans l'écriture très très dense, ou alors est-ce que c'est Baudelaire qui justement l'a inspiré pour aller essayer de se mettre au niveau de cette poésie, de ce lyrisme-là, et que la réponse était dans ce wagnérisme qui a assez peu plu finalement. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui a guidé ces choix esthétiques-là.
Raquel Camarinien, on parlait de Debussy qui vous a réunis tous les deux, et puis votre amour de la mélodie. En même temps, le matin, quand vous commencez à travailler, vous allez vers quel compositeur ?
Ah, c'est une bonne question. Souvent, je vais vers le compositeur que je travaille à ce moment-là. Mais moi, je dirais que très naturellement, je suis amenée vers Mozart. Ça reste toujours quelqu'un à qui je retourne... Souvent.
Ah, c'est un peu un baume vocal, non, Mozart ?
Ah, complètement. C'est, oui, comme tu dis, c'est un baume. Je pense à Mozart, Handel, ce sont vraiment des compositeurs qui font du bien à la voix et auxquels on a toujours, toujours envie d'y retourner.
J'ai l'impression que, je vais dire encore, je m'égarais, mais j'ai l'impression que pour les sopranos, Mozart, c'est comme Bach pour les violoncellistes, c'est une source.
Ah oui, c'est une source inépuisable de bien-être vocal et d'inspiration.
En même temps, vous parlez de Mozart, mais on connaît peu les leaders de Mozart. Enfin, ça peut jouer. Bon, il y a un disque d'Edwin Fischer avec Schwarzkopf, un disque essentiel. Mais sinon, c'est un répertoire qu'on explore pas.
Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, déjà. C'est quand même, je ne sais pas combien il y en a, mais je crois qu'il y a, oui, il y a peut-être une trentaine de leaders. Oui. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près ça.
Et à côté, on a justement tous les opéras, tous les airs de concert.
C'est ça, il souffre d'une part de la comparaison avec le reste de sa production, et puis d'autre part avec tout ce qui vient derrière. C'est vrai que même Haydn, on a composé pas mal aussi, mais c'est vrai qu'on les fait assez peu. Mais par contre, tout de suite après, il y a Beethoven qui arrive, et puis évidemment Schubert. Donc ils ont un peu éclipsé, pour une fois que Mozart se fait éclipser...
Oui, d'ailleurs, c'est étonnant parce que là, pour ce concert du 23 juin prochain à la Grange de Mellet, Schumann et Brahms, qui ont écrit tellement sublimement pour la voix et qui n'ont pas composé d'opéra, c'est quand même un paradoxe.
Oui, c'est vrai. Schumann a écrit, il y a quand même
les oratorios,
et puis, mais c'est vrai que Brahms, on pense pareil au Requiem, mais il n'y a pas d'œuvre théâtrale. Je pense aussi Brahms, il s'est vraiment intéressé à l'orchestre, donc lui, c'est vraiment... la musique symphonique qui a pris aussi le pas sur ça. Et puis aussi, j'avoue pas m'être suffisamment pensé sur la question, mais Brahms, il est quand même... il est aussi au contact d'un autre grand génie qui, lui, s'est exprimé que dans l'opéra. C'est quand même Richard Wagner. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre de chapelle presque, où vraiment Wagner à l'époque était le compositeur d'opéra et Brahms compositeur de musique symphonique, instrumentale à côté, Et peut-être aussi que si Richard Wagner n'avait pas existé, Brahms aurait écrit de l'opéra, je ne sais pas.
Vous avez l'un et l'autre, nous on a beaucoup de chance de pouvoir vous écouter, vous avez l'un et l'autre aussi beaucoup de chance justement de faire de la mélodie et de l'opéra, puisque vous chantez à l'opéra, Raquel Camarina, et puis vous, Johan Hérault, vous avez fait partie de l'atelier lyrique, et puis vous continuez justement à travailler avec des chanteurs pour l'opéra et à diriger, ce sont des plaisirs complètement différents et complémentaires.
Oui, je suis complètement d'accord, c'est très différent. Justement, l'opéra a cette dimension pour moi théâtrale, très dans le jeu. Souvent, le texte, il est presque relégué dans un deuxième, parce que forcément, on veut surtout la compréhension. On prend des textes parfois plus simples, qu'on répète.
Dans un affect, en fait.
Oui. Et dans la mélodie, c'est tout l'inverse, comme on disait tout à l'heure. On a 3 minutes pour créer l'univers. Tout va plus vite et en même temps, tout est plus délicat, plus fin. Et je trouve que ça se nourrit mutuellement.
Je pense que même pour vous, vocalement, c'est intéressant de côtoyer les deux genres, évidemment.
Oui, parce que forcément, dans l'opéra, on est plus dans une vocalité... efficace, on veut des grandes lignes. Dans la mélodie, on est justement très près du texte, on veut quelque chose presque proche du parler. On est souvent dans des salles plus petites, donc plus intimes.
Il n'y a pas d'orchestre à passer comme...
Oui, on peut profiter de ça. Donc tous les deux, se complémentent.
Vous, Johan Hérault, si vous n'aviez pas travaillé avec tous ces chanteurs, vous joueriez du piano complètement différemment, ou alors le chant, il serait présent quand même, comme des pianistes comme Horowitz qui disaient qu'ils écoutaient de l'opéra avant de jouer.
Ah oui, si. Non, c'est sûr qu'il serait très différent. Après, c'est vrai qu'un grand pianiste comme Horowitz a su s'inspirer du chant sans avoir ou très peu joué avec des chanteurs. Mais c'est clair que pour moi, ça a changé énormément de choses dans le rapport au corps aussi, parce qu'on a quand même des musiciens dont l'instrument est le corps face à nous, donc ça implique vraiment un rapport à celui-ci très très différent de nous autres instrumentistes. Donc moi, c'est sûr que j'ai appris à respirer avec les chanteurs, j'ai appris à me tenir face à mon piano avec grâce aux chanteurs. Il y a une certaine ouverture du corps qui est très différente aussi. Les pianistes, on peut avoir tendance un peu à se fermer face à cette énorme machine qu'on a face à nous, et c'est vrai que pour moi, le contact de ces chanteurs a été énorme. Et évidemment, aussi dans la théâtralité, moi, à travailler aux côtés de chanteurs, j'ai tout d'un coup globalisé le geste artistique et la présence qu'on peut avoir sur une scène, de se dire que les chanteurs ont vraiment conscience aiguë du fait que dès qu'on met un pied sur une scène, on est un personnage. Même si on est en concert, évidemment, il ne s'agit pas de s'inventer... quelque chose, mais le fait est que quand on rentre sur scène, on n'est plus nous-mêmes, et avoir conscience jusque dans les saluts qu'il y a un public face à nous, qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'avec Raquel, on s'amuse souvent de voir des instrumentistes de génie qui d'un bout à l'autre jouent merveilleusement bien, on est complètement transporté, et puis tout d'un coup ils prennent la parole pour présenter le bis. Et tout s'effondre. Enfin, j'exagère, évidemment, parce que les grands génies restent quand même. Mais c'est vrai qu'avoir conscience de tout ça, je pense surtout aujourd'hui, on a un public de plus en plus exigeant, je pense, par rapport à cette présentation, à la présence scénique. On a des gens qui voient beaucoup de choses aujourd'hui, qui sont abreuvés d'images. Et il faut soigner tout ça de plus en plus.
Oui, mais alors, justement, moi, au risque d'être vieux jeu, justement, on est parfois un peu triste que cet univers soit aussi gagné par cette histoire d'image. Et parfois, quand on voit justement un pianiste qui est en dehors de ça, dans son univers, on se dit, il y a encore une certaine pureté, il n'y a pas que l'image.
C'est vrai. Et puis, évidemment, faut conserver la personnalité qui fait qu'on est chacun de nous. Mais je pense que, comme toujours, la vérité est dans la nuance.
Vous parlez d'immenses pianistes. C'est vrai que quand on voit, par exemple, les pianistes qui ont joué avec des chanteurs, je parle de Gerald Moore ou toutes les, justement, les grands noms. Et là, il y a Irving Cage qui vient de nous quitter. Mais il y a très peu de grands pianistes solistes, en fait, dont on peut se féliciter du travail qu'ils font avec les chanteurs. Moi, je pense il y a un disque de Richter, justement, on commençait par ça et finalement la boucle va être bouclée de cette manière. Il y a son disque avec Fischer Dieskau, de la belle Magnolon de Brahms, mais c'est rare quand même les témoignages de grands interprètes solistes qui laissent une marque avec des chanteurs.
C'est vrai, c'est rare. Il y en a quelques-uns. Il y a évidemment Richter. Je pense aussi à Brendel. Qui est en
Voyage d'hiver.
Voyage d'hiver avec à nouveau Fischer Dieskau, mais qu'il a aussi fait avec Matthias Goerne. Je pense aussi à Glenn Gould, qui a peu fait dans ce répertoire, mais dont les, je ne sais pas si vous connaissez les Ophélies de Strauss avec Gould et Schwarzkopf, c'est exceptionnel. Donc c'est vrai qu'étonnamment quand même, ça reste un répertoire un peu de spécialiste où les pianistes s'aventurent peu. C'est vrai que je pense qu'il faut avoir l'envie, le goût de ça, parce qu'il est clair qu'accompagner un chanteur, c'est absolument pas comme accompagner un autre instrumentiste. Les enjeux sont vraiment différents et il faut en avoir conscience et avoir l'envie de s'adapter aussi un petit peu.
Et au risque de vous faire rougir également la culture littéraire et de cette littérature pour Mélodie. Raquel Camarina, donc votre disque en duo Poulenc, Ravel, Debussy, Delage. Chez Sherazade, donc vous l'avez chanté avec orchestre, vous le chantez avec piano, c'est totalement différent. Je ne parle pas seulement à écouter, mais vous, en tant que chanteuse, c'est un exercice, entre guillemets, totalement différent.
C'est totalement différent. Sherazade avec orchestre, oui, comme on disait, on est beaucoup dans une efficacité, l'orchestre est assez dense, donc on pense surtout à faire partie de cette grande machine, à bien projeter sa voix. Ça reste une œuvre immense, mais du coup, il y a des petits détails du texte qui passent un peu à la trappe. Et là, dans la version avec piano, on peut vraiment soigner ces aspects. On peut aller très loin, je pense pas juste à Asie, parce que souvent chez Razad, on pense à Asie, qui a une grande dimension. Mais il y a aussi derrière la flûte enchantée et puis l'indifférent et on peut aller très loin avec le piano dans les dynamiques, faire quelque chose de profondément intime et je trouve ça très très beau et que ça, finalement après quand on le rechante avec orchestre, on a envie de retrouver ça et du coup on va aller encore plus loin après avec l'orchestre.
Oui, et puis il faut dire aussi que les contraintes font que vous n'avez pas le temps de travailler avec un chef d'orchestre comme vous avez le temps de travailler avec un pianiste.
Ah, c'est sûr. Avec orchestre, souvent, on a 2-3 jours avant pour préparer l'œuvre. Et avec un pianiste, on a des mois où on mûrit, on le fait en concert. Et après, on se dit, ah, mais en fait, le concert, ça nous a permis encore de comprendre d'autres choses. Donc, pour le prochain concert, ça va être encore différent. Ça c'est aussi un des grands attraits du travail en duo, c'est qu'on a tout le temps devant nous, on peut vraiment profiter de ça.
Et puis vous formez un duo, en plus il y a une telle proximité, mais alors quand vous retrouvez l'un et l'autre, vous Raquel, quand vous chantez avec un autre pianiste et que vous jouez avec d'autres sopranos, ça enrichit en même temps votre duo?
Ça enrichit beaucoup bien sûr, parce qu'on peut avoir... la tendance à s'habituer aussi, on crée certains réflexes.
Vous engueulez parfois?
Vous voulez savoir...
Je ne parle pas à la ville, je parle à la scène quand vous travaillez.
Vous voulez savoir si des fois on ne s'engueule pas surtout? Tout le temps, évidemment.
Non, tu exagères. Non, mais c'est vrai que le fait de travailler avec d'autres pianistes... En fait, moi j'ai la tendance, quand je chante avec Johan, de trouver que son piano, il est... absolu, enfin je m'explique, de trouver que ça c'est le piano que je vais entendre quand je vais chanter cette œuvre. Et après quand je me retrouve avec un autre pianiste, je me rends compte qu'en fait il y a infiniment de possibilités de réinterpréter l'œuvre et je retrouve exactement quelles sont les choses qui me plaisent beaucoup dans le travail avec Johan et puis d'autres choses où je me dis tiens ça c'est nouveau, peut-être qu'on pourrait essayer ça aussi, pourquoi pas, enfin, et donc c'est très inspirant et je trouve que c'est même très valorisant pour notre duo de travailler avec d'autres personnes. Ça nous fait nous regarder différemment.
Et dans le travail, c'est intéressant aussi parce qu'on est, bah, on travaille ensemble depuis tellement longtemps et tellement intensément, quand même beaucoup, qu'on se parle plus beaucoup, à part quand on s'engueule. Mais, mais sinon, c'est vrai que les choses se font quand même assez naturellement parce qu'on se connaît très bien. Et tout d'un coup, de se retrouver face à un partenaire avec qui il faut parler, parce qu'on se connaît moins, il faut se découvrir, et ben, ça apporte, comme tu le disais aussi, un nouveau regard. Tout d'un coup, prendre conscience de certaines choses, parce qu'évidemment, on s'habitue peut-être des fois d'une façon négative à certains aspects de l'autre. Donc, avoir évidemment un regard neuf, c'est toujours bon dans notre démarche artistique.
Alors je rappelle que vous serez l'un et l'autre en compagnie de Fernando Guimaraes, Stéphane Gens et Adèle Charvet sur cette magnifique scène de la Grange de Mêlée le 23 juin prochain à 18h pour des duos, quatuors, solo, trio de Schumann et Brahms. Et puis vous, Johan Hérault, vous serez aux côtés de Stéphane Gens pour ce voyage d'hiver de Schubert. Et puis on attend avec impatience votre disque de mélodie française. Juste le mot de la fin, Raquel Camarinha, et après j'arrête de vous torturer. L'opéra, la mélodie, il y a quand même aussi la mélodie, vous construisez le répertoire en fonction de vos envies, envies mutuelles. Mais à l'opéra, il y a aussi ce qu'on vous demande, et puis on vous propose un rôle, et vous êtes porté aussi par, par ce qu'on vous demande à l'opéra.
Oui, bien sûr, à l'opéra, souvent, il y a des choix qui ont été faits parce que l'occasion s'est présentée et que, voilà, c'était l'occasion de chanter tel rôle. Mais finalement, dans la mélodie aussi, souvent, on a des programmateurs qui nous demandent une œuvre en particulier ou une thématique en particulier, et du coup, on va aller chercher... enfin, je sais que récemment, à la demande de René Martin, on a concocté un programme autour de l'exil et on a découvert des mélodies de Victor Ullmann qui sont absolument splendides et qu'on n'aurait pas spécialement voilà, on ne serait pas forcément allé les chercher. Je pense aussi à Chopin, l'intégrale des mélodies de Chopin que nous avons fait en polonais et que pour moi c'était un grand défi. Donc je pense que dans la mélodie aussi parfois on se laisse un peu porter aussi par un programmateur qui nous demande telle chose et tout d'un coup, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous.
Eh bien, c'est sur ces propos qu'on va se séparer et l'évocation de cette figure tragique de Victor Ullmann. Il me reste infiniment à vous remercier, Raquel Camarinha. Merci.
Merci à vous.
Et Johan Hérault, merci.
Merci beaucoup.